Vous êtes sur RTL.
Bonjour Alexandre de Saint-Aignan.
Bonjour Eric.
Joyeux Noël.
Merci, joyeux Noël à vous aussi en ce 25 décembre. Avant de passer à table, on est ensemble pour une demi-heure d'information avec à la une ce midi. 48 heures après la fusillade qui a fait 3 morts et endeuillé la communauté kurde en plein Paris, le suspect reconnaît une haine des étrangers pathologique. On apprend également qu'il voulait passer à l'acte initialement à Saint-Denis. Dans l'actualité également, le très attendu discours de Noël du roi Charles III qui prendra la parole à 16h à la télévision britannique. Ce sera la première fois depuis la mort de sa mère, la reine Elisabeth. Vous entendez les cloches qui sonnent au Vatican en ce jour de Noël. Le pape François a prononcé sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Il condamne la guerre insensée en Ukraine. Il appelle à faire taire les armes. Ce 25 décembre également marqué par une douceur exceptionnelle. Bonjour Anthony.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Douceur mais aussi un petit peu de pluie dans le nord-ouest.
Exactement, des pluies qu'on retrouve actuellement en Normandie et vers les Hauts-de-France. Elles bougeront peu en cours d'après-midi. Alternance d'éclaircies, de nuages et d'averses pour la Bretagne, les Pays de la Loire, l'Île-de-France et la Champagne, puis partout ailleurs plutôt un temps sec, assez ensoleillé, parfois voilé dans le nord-est. Attention, quelques brouillards pourraient persister dans le Val-de-Saône. Et puis nouveauté, des entrées maritimes apporteront beaucoup de nuages, voire quelques gouttes, sur tout le pourtour méditerranéen jusqu'aux Cévennes et jusqu'en basse vallée du Rhône, avec un très net renforcement du vent. Les températures donc très très douces, 11 degrés à Lille cet après-midi, 12 à Brest, 13 à Paris et Orléans, 15 à Nantes et Perpignan, 16 à Lyon, 18 à Marseille et Clermont-Ferrand, jusqu'à 20 degrés pour bien Biarritz et pour Tarbes.
Anthony Kaczmarek, merci. On parle du Père Noël, évidemment. Le Père Noël, il est passé aujourd'hui et cette journée sera consacrée à l'essai des cadeaux pour de très nombreux enfants.
Des cartes Pokémon, un ballon de foot.
Donc ce matin, il vous a réveillé avec ça, madame ?
Ils ont joué ce matin au foot, ouais, et hier soir à la bonne paye. Et puis nous aussi, on a joué avec, hein. On a joué aux jeux de société tous ensemble.
Et bon courage pour les parents. On va aussi manger un repas de fête ce midi avec une bûche ou peut-être aussi un panettone cette année, particulièrement la gastronomie italienne s'invite à la table de Noël. On en discutera avec le chef pâtissier boulanger Benoît Castel qui sera notre invité. Et puis, depuis une semaine, depuis la fin de la Coupe du Monde, les Argentins ne font pas de cadeaux aux Français. Dernière provocation, une pétition en ligne de plus de 500 000 signatures pour, je cite, que la France arrête de pleurer après sa défaite en finale. C'est pas très gentil. Le quintet cet après-midi à Vincennes, les pronostics de Dominique Cordier. Départ 15h15, le 14, le 5, le 4, le 12, le 6, le 11 et le 13. La dernière minute, c'est le numéro 6, Eddy Duvivier. Merci d'avoir choisi RTL en ce 25 décembre. Bienvenue à tous.
RTL Midi.
Et d'abord, cette belle histoire de Noël près de Caen, dans le Calvados. Pauline était enceinte, elle était censée accoucher mercredi prochain, mais le petit miracle est finalement arrivé plus tôt que prévu. Elle a donné naissance à des jumeaux chez elle, épaulée par son fils de 3 ans, avant même l'arrivée des pompiers.
Je n'y attendais vraiment pas. Pour moi, c'était pas le jour J. J'ai eu des premières contractions vers 8h. J'ai eu le temps de me mettre dans le canapé. Après, ça s'est vite enchaîné. J'ai eu une très grosse contraction. Noah est sorti avec la poche des os autour de lui, qui a percé aussitôt. Et puis, bah, une fois que la poche des os a percé, Noah s'est mis à pleurer. J'ai demandé à Loan qu'il aille me chercher une serviette en haut, ce qu'il a fait. Du haut de ses 3 ans. Et après, j'ai emmailloté Noah en attendant les pompiers qui sont arrivés, quoi, 1 minute 30, 2 minutes juste après. Moi, j'avais le médecin du SAMU qui était au téléphone avec moi. Loan était en train d'essayer d'ouvrir la porte, du coup, puisque les pompiers étaient en train d'arriver. Ils l'ont occupé pour pas qu'il regarde de trop non plus.
Et voilà pour ce Noël dont cette famille normande risque de se souvenir bien longtemps, hein, des propos recueillis par Léonard Cassette pour RTL. 48 heures après la fusillade qui a fait 3 morts dans le centre de Paris, la communauté kurde ne parvient pas à masquer sa colère. Certains de ses représentants souhaiteraient que l'attaque soit considérée comme terroriste et non seulement raciste, alors que c'est bien la piste privilégiée, hein, jusqu'à présent par les enquêteurs. Bonjour Maxime Lévy.
Bonjour.
Du service police-justice de RTL. Le suspect est sorti de garde à vue hier soir. Il s'est longuement confié aux enquêteurs au sujet de ses motivations.
Oui, il reconnaît ouvertement, je cite, une haine des étrangers pathologique. Il en dit également plus sur le déclencheur de ces violences. En 2016, il est victime d'un cambriolage chez lui. À l'époque, il a d'ailleurs gravement blessé les auteurs. Depuis, il explique, je cite, qu'il a toujours eu envie d'assassiner des migrants, des étrangers. Face aux enquêteurs, il se décrit comme dépressif, suicidaire, en précisant qu'il emporterait ses ennemis dans la tombe. Par ennemi, il entend, je le cite encore, tous les étrangers non européens.
des propos glaçants et parfois un peu flous. On apprend également qu'il n'avait pas prévu initialement de commettre son attaque dans la rue d'Enghien, dans le 10e arrondissement de Paris.
Effectivement, il s'est d'abord rendu tôt le matin à Saint-Denis, en banlieue parisienne, équipé de son arme pour tuer des étrangers. Il a finalement renoncé compte tenu du peu de monde présent. Il s'est donc rabattu sur le centre culturel kurde à Paris et il ne l'a pas attaqué par hasard. Le suspect leur en voulait personnellement d'avoir fait prisonnier les combattants de Daesh en Syrie au lieu de les tuer. Il voulait, semble-t-il, faire un massacre, utiliser toutes ses munitions, une quarantaine, avant de se suicider avec la dernière balle. Il n'a d'ailleurs qu'un seul regret, celui de ne pas avoir pu se tuer après l'attaque. À l'heure où l'on parle, son état de santé est toujours incompatible avec sa garde à vue. Suspendu depuis hier soir, il a été transféré à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris.
Et ce passage par l'infirmerie psychiatrique, il pose évidemment des questions sur son discernement au moment de la fusillade et donc sur la suite de l'enquête.
Oui, le suspect est en ce moment examiné par un médecin. Une expertise psychiatrique va avoir lieu et elle sera déterminante. Soit il reprendra sa garde à vue là où elle s'est arrêtée avant une mise en examen, soit il sera hospitalisé d'office. Dans ce cas, l'enquête pourra tout de même continuer, mais un placement en hôpital psychiatrique affectera inévitablement les investigations.
Les explications de Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Direction le Royaume-Uni à présent en ce 25 décembre. C'est un événement qui n'est plus arrivé depuis de nombreuses décennies. Le discours d'un roi pour Noël. Et oui, ces dernières années, c'était la reine Elisabeth II qui prenait la parole. Ce sera donc une première pour son fils, son successeur Charles III. Bonjour Marie Billon.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en direct de Londres en attendant le discours. Cet après-midi, ce sera à 16h, heure française. On a vu ce matin la famille royale à l'église de Sandringham pour assister à la messe de Noël.
Oui, c'était il y a une petite demi-heure, il y avait le roi Charles et son épouse, la reine consort Camilla, qui marchaient en tête des autres membres de la famille royale pour aller à la traditionnelle messe de Noël dans la petite église en pierre qui se trouve à Sandringham, dans le domaine royal, là où la famille royale passe Noël de manière traditionnelle. La reine a toujours fait ça, sauf pendant la période de Covid. Il y avait aussi, bien sûr, le prince et la princesse de Galles, Kate et William, qui suivaient de près le roi et la reine avec leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, et presque tous les autres membres de la famille royale, même le prince Andrew en disgrâce, étaient présents. Mais bien sûr, pas de traces de Harry et Meghan qui sont restés en Amérique du Nord pour les fêtes. C'est le premier Noël donc sans Elisabeth II, le premier de la famille royale à Sandringham sans elle. Et il y avait quand même des dizaines de Britanniques qui étaient venus pour saluer la famille royale, leur souhaiter de bonnes fêtes et même si possible donner des fleurs à Kate, princesse Galles, ou même à la reine Camilla. Après cette messe, la famille rentrera dans le manoir royal pour un déjeuner de Noël. Ils auront tout le temps pour manger la dinde puisque le discours de Noël, le premier de Charles III devenu roi, a été enregistré le 13 décembre dernier. Des millions de Britanniques devraient allumer leur télévision pour assister à ce moment traditionnel à 15h ici, 16h heure de Paris.
Voilà, c'est enregistré, c'est plus pratique. Merci beaucoup Marie Billon, correspondante au Royaume-Uni pour RTL. C'est la tradition également, un discours à Rome. Ce matin, le pape a pris la parole pour sa bénédiction solennelle Urbi et Orbi depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre au Vatican.
Que notre regard se remplisse des visages de nos frères et sœurs ukrainiens qui vivent ce Noël dans l'obscurité, dans le froid, loin de chez eux à cause des destructions causées par 10 mois de guerre. Que le Seigneur éclaire l'esprit de ceux qui ont le pouvoir de faire taire les armes et de mettre fin immédiatement à cette guerre insensée.
Voilà pour les mots du pape François, cette bénédiction de Noël Urbi et Orbi. L'Ukraine passe son premier Noël en guerre depuis l'invasion par la Russie en février dernier. Hier, une frappe russe a fait 10 morts dans le marché de Kherson. Le ministre français des armées, Sébastien Lecornu, se rendra à Kiev mercredi prochain. En Espagne, le bilan vient de passer à 4 morts après un accident de car. L'autobus est tombé hier soir dans une rivière depuis un pont en Galice, c'est dans le nord-ouest du pays. Aux États-Unis, les fêtes de fin d'année endeuillée par une gigantesque tempête hivernale. Au moins 17 personnes ont perdu la vie alors que le thermomètre continue d'afficher des températures en dessous des moins 30 degrés. Des avions sont cloués au sol et des centaines de milliers de foyers sont privés d'électricité. Je me tourne à présent vers vous, Anthony Kaczmarek. Cette vague de froid, elle est impressionnante. Elle balaye toute l'Amérique du Nord. Est-ce qu'il y a des chances qu'elle arrive ensuite chez nous, en Europe ?
Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le phénomène est classique. Les États-Unis sont habitués aux tempêtes hivernales. Ce qui se passe, c'est qu'un morceau de ce qu'on appelle le vortex polaire, donc un air extrêmement froid s'est décroché pour concerner toute l'Amérique du Nord. Cette fois-ci, en revanche, c'est très intense, vous l'avez dit, c'est brutal. La ville de Cheyenne, dans le Wyoming, a perdu 27 degrés en 2 heures de temps seulement et c'est très étendu jusqu'à la frontière mexicaine. Alors, rassurons tout le monde, non, ça n'arrivera pas jusqu'en Europe. Ce phénomène a plutôt tendance à former des dépressions sur l'Atlantique et avec des vents de sud-ouest en direction de l'Europe, ça entraîne une poussée de douceur chez nous. C'est un peu le principe des vases communicants. D'ailleurs, pour toute la semaine prochaine, hormis un petit rafraîchissement mardi, on devrait rester dans des valeurs 4 à 7 degrés au-dessus des normales.
Merci Anthony. Et justement, cette douceur exceptionnelle depuis plusieurs jours, on voit par exemple à Marseille 17 degrés aujourd'hui. Certains habitants ont même décidé de passer Noël à la plage. Manon Meyer-Elfiger, à la plage des Catalans, les baigneurs sont nombreux.
Le soleil brille et les Marseillais ont sorti les serviettes. Alors les plus frileux sont encore en pull. Mais ce matin, il y avait quand même une vingtaine de courageux qui se sont baignés dans une eau à 16 degrés. Christian, lui, sort tout juste de l'eau, le sourire aux lèvres.
Elle est délicieuse. Pour le moral, il n'y a pas mieux. C'est extraordinaire. C'est un vrai bonheur.
Marie, elle aussi, revient de la baignade. Cette Parisienne est venue passer Noël avec sa belle famille et elle ne s'attendait pas à ces températures.
Jamais on serait imaginé qu'on puisse être même là en maillot sur la plage là aujourd'hui. Donc non, j'avais pas prévu les maillots à la base. J'ai piqué le maillot de ma belle-mère.
Guillaume fait quelques étirements avant de se jeter à l'eau. Pour lui, ce Noël a tout de même une drôle de saveur.
C'est un peu surréaliste parce que 25 décembre, c'est la neige, Noël. Enfin, dans l'inconscient, il y a encore tout ça, quoi. Et là, il fait chaud, presque 20 degrés, quoi. Donc c'est quand même un peu inquiétant aussi par rapport au climat, quoi. Et en même temps, je profite, quoi. Je me dis, ben, j'ai cette chance aussi de pouvoir en profiter, donc allons-y.
Et en France, ce jour de Noël va sans doute battre des records puisqu'il devrait être le plus chaud depuis 1997.
À Marseille, Manon Meyer-Ilfiger pour RTL. De la douceur également à Metz ce matin. 11 degrés, lendemain de réveillon. Pour les habitants qui sont sortis prendre l'air dans les jardins, Jean-Marie Pelt, Dimitri Ramelot.
Oui, très courte nuit pour Michael, sorti avec plusieurs membres de sa famille pour commencer à digérer un peu.
Debout depuis 7 heures.
Couché tard.
Quand même, genre 2h30, 3h. Bah, il fallait sortir le chien, il fallait s'occuper des petits-enfants aussi, etc. Donc ouais.
On a envie d'aller courir et je pense que je vais faire ça cet après-midi, après le déjeuner.
Car après le repas assez copieux d'hier soir...
On a mangé de la poularde farcie. C'était très bon. Et maintenant, on la digère.
On sent coupable ?
Pas du tout, pas du tout. C'était rien de réveillon quand même.
Le brunch de midi pourrait bien finir de remplir l'estomac de Pascal.
La fausse bonne idée où il y a plein de petits plats et on se fait plaisir, mais c'est très sympa.
Ça dégourdit les jambes là ce matin.
Voilà, besoin de mettre le nez dehors. Voilà, on prend l'air, on se met en route.
Et la mise en route ne sera pas très longue pour Benoît et Colline, déjà dans les starting blocks pour le deuxième repas de Noël.
On est prêt, c'est bon. On sait à quoi s'attendre, donc ça va.
On va pas tarder à commencer, histoire de finir pas trop tard.
Donc on se retrouve ce soir à 17h là pour la deuxième promenade de la journée ou...
Voilà, exactement.
Au marché de Noël, au stand de vin chaud. Une bonne nuit de sommeil le 25, et voilà.
Et comme beaucoup, la famille se mettra probablement au régime dans les prochains jours en attendant la soirée de la Saint-Sylvestre.
Oui, c'est pas encore l'heure du régime. Hein. Merci beaucoup Dimitri Ramelot à Metz pour RTL. Allez, dans un instant, on a déballé nos cadeaux ce matin.
C'est un Lego et il y a un gorille.
Et alors, quand tu vois tous ces cadeaux au pied du sapin, là, qu'est-ce que tu te dis ?
Je me dis qu'il y en a beaucoup.
Ah, ça c'est sûr, il y en a beaucoup, des cadeaux qu'il est grand temps d'essayer. Les enfants ne nous ont pas attendus. A tout de suite sur RTL.
RTL Midi, le 12-30, Alexandre de Saint-Aignan.
Et bientôt midi 45 sur RTL. En ce jour de Noël, on profite de cette douceur exceptionnelle pour aller essayer les cadeaux dans le bois de Boulogne, près de Paris, au jardin d'acclimatation.
J'ai eu un livre des animaux dangereux, un maillot de Cristiano Ronaldo, un globe, une tenue de ski parce que je pars bientôt à la montagne cet après-midi, et une trottinette.
Est-ce que tu l'as essayé ?
Ouais, elle est verte, avec du noir et du blanc. Elle fait des lumières sur les roues. Quand je vais vite sous la nuit, des bracelets de toutes les couleurs, orange, bleu. Rouge. La poitrine, c'est pas trop bien parce que moi j'ai 6 ans et c'était à l'âge de 8 ans, alors c'était
un kit pour faire des mangas, une trousse avec des feux d'artiste, des cartes cadeaux, des pop et une baguette d'Harry Potter.
Des cartes Pokémon, un ballon de foot, la bonne paye.
Un jeu de société.
Des chaussures.
Que tu portes là actuellement ?
Oui. Des Legos.
Donc ce matin, il vous a réveillé avec ça, madame ?
Ils ont joué ce matin au foot, ouais, et hier soir à la bonne paye. Et puis nous aussi, on a joué avec, hein, on a joué aux jeux de société tous ensemble. C'était super.
Voilà des enfants très gâtés par le Père Noël au micro RTL d'Arthur Pereira. Les cadeaux, c'est fait. Mais attention, la fête de Noël est encore loin d'être terminée. Ce midi, on retourne à table avec parfois l'envie de faire un petit peu plus léger qu'hier soir, comme dans cette famille qui organise un brunch de Noël près de Bordeaux, Clara et Chary.
Quand on demande aux plus jeunes ce qui leur plaît, à part bien sûr ouvrir les cadeaux, voilà la réponse.
D'avoir la famille et de manger.
Et oui, manger. Et chez les vendeurs d'hôtes, on a choisi de faire original le chapon. C'était hier soir. Aujourd'hui, c'est brunch de Noël, aperçu du menu avec Christophe.
Donc, huit, saumon, jambon et le fromage pour ce qui est du salé. Et il y a le cuistot qui est en train de cuire des pancakes pour le sucré, donc avec une bonne brioche. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des fruits. On va être 14 à table avec les enfants.
Et forcément, avec une telle tablée, Martine a dû bien s'organiser.
J'ai travaillé de toute la semaine. Je me disais, bon, il faut que je fasse ça dans telle ordre, telle ordre, telle ordre, telle ordre. Et puis, bah voilà. C'est surtout un super moment convivial et familial. Et c'est que du bonheur de recevoir tout ce monde-là. Il y a peut-être des trucs plus ou moins ratés, mais bon, ou réussis. Mais bon, voilà, l'important, c'est d'être ensemble.
Allez, c'est l'heure de passer à table. On vous souhaite bien sûr...
Voilà un brunch de Noël particulièrement festif et particulièrement réussi, j'en suis sûr. Reportage de Clara et Chary près de Bordeaux pour RTL. Côté dessert, en tout cas ce midi, il n'y aura peut-être pas de bûche. Et oui, ne soyez pas surpris sur la table de Noël. Bonjour Benoît Castel.
Bonjour.
Vous êtes chef pâtissier boulanger à Paris. Alors c'est une période particulièrement chargée évidemment pour vous. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Alors à Noël, la tradition c'est de manger une bûche. Mais depuis quelques années, et j'ai l'impression plus particulièrement cette année, on voit de plus en plus de panettone. C'est comme une brioche avec des fruits confits. D'où est-ce qu'il vient ce dessert d'ailleurs? Est-ce que vous le considérez comme un dessert ou comme un pain?
Ah, véritablement comme un dessert. C'est vrai que ça vient d'Italie et depuis quelques années, on l'avait vu dans des très bonnes épiceries parisiennes, il était là depuis très longtemps déjà. Et depuis quelques années, de plus en plus de personnes se mettent à faire du panettone comme chez nous. Et puis on a des carrément des gens qui se spécialisent sur Paris que dans le panettone. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie des desserts qui sont sur la table à Noël.
Vous le faites comment votre panettone?
Alors c'est un panettone sur une recette en fait où on met 3 jours à la faire. On n'est pas, j'ai envie de dire, dans la perfection du panettone italien comme il est fait parce que c'est très 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 compliqué. Mais on s'en rapproche. On a un peu francisé, brioché un peu la recette. On préfère se concentrer sur une seule recette. Pour moi, c'est le plus traditionnel des panettones. Et c'est vrai qu'on essaie de beaucoup jouer nous dans la tradition. C'est vrai de plus en plus, on en voit aussi au chocolat. Mais on est resté sur une variété, une variante, en fait, le traditionnel aux fruits confits. On utilise de très bons fruits confits. Et ça fait aussi la différence. Il y a une qualité du fruit confit qui doit être irréprochable.
Vous dites que c'est un dessert qui est très compliqué à réaliser. Qu'est-ce qui fait qu'il est aussi compliqué?
En fait, c'est fait sur levain. C'est un levain bien particulier à nourrir, avec des fermentations qui sont longues, des temps de pousse qui sont très longs. Et c'est hyper technique. Parce qu'en fait c'est une brioche, enfin, c'est plus ou moins qu'une brioche en fait qu'on peut garder pendant très longtemps. Donc il y a, si vous voulez, il faut que ce soit la pâte, elle doit être pétrie, où il y a plusieurs pétrissages de la pâte, des temps de repos. Et c'est une pâte à la base qui est faite aussi pour que c'est un gâteau qui se conserve très 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 longtemps dans le temps. En général, un panettone, souvent vous l'avez, il a plus d'un mois, deux mois, et c'est comme s'il était sorti depuis peu en fait. Vous voyez, donc. Si le panettone est pas bien fait, en fait, ça peut vite devenir quelque chose sec.
Alors, je retiens quand même aussi que voilà, il faut 3 jours pour le faire. Ça coûte combien un panettone chez vous?
Alors, chez nous, on est à 18€ le panettone de 500 grammes. Ça peut être aussi un véritable cadeau à offrir. Et de plus en plus de gens offrent des panettones en guise de cadeau.
Ça représente quelle part des ventes chez vous, le panettone?
C'est difficile de dire que ça représente une part. Aujourd'hui, je vais sur 3 boutiques, on va en vendre environ 500 pendant la période de Noël.
Et en comparaison avec la bûche?
On vend beaucoup plus de bûches. On en vend le double.
Le double, d'accord. Ah oui, voilà. Oui, ça reste quand même un incontournable. Votre recette peut-être de bûche pour ce Noël, c'est laquelle?
Alors, on a quatre bûches. On en a une qui est au chocolat et à l'orange et au sarrasin. On en a une autre qui est une crème de yaourt, un crémeux avocat à la passion avec un compoté d'ananas à la vanille. On a une autre complètement praliné pour les fans de praliné, un croustillant au praliné avec une crème de un crémeux au praliné et une mousseline pralinée et une bûche notre bûche signature qui est une bûche à partir de biscuits sablés croustillants avec des blés anciens, des vieilles variétés de blé, et puis un crémeux caramel, enfin un caramel au beurre salé, et avec une infusion de biscuits torréfiés.
Bon, moi, je goûterais bien celle au caramel au beurre salé, puis celle au praliné aussi. Elles m'ont l'air délicieuses. Merci beaucoup, Benoît Castel, chef pâtissier Merci. Boulanger à Paris. Votre boutique, c'est la pâtisserie boulangerie. Vous avez de même 3 adresses dans la capitale. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de RTL.
Merci à vous et joyeuses fêtes.
RTL Midi.
Joyeuse fête évidemment ce dimanche 25 décembre, dernière étape de notre grand concours des marchés de Noël sur RTL. Vous pouvez continuer à voter pour votre marché de Noël préféré sur RTL.fr. Cap aujourd'hui sur la Drôme Provençale. Notre correspondant Raphaël Vantard a choisi de nous faire découvrir le marché du Pouet de Sigillat. Marché de Noël avec uniquement des artisans locaux qui se déroulent dans les maisons de ce village de 120 habitants.
Chassez-moi ces allées bondées, ces chalets en bois identiques. Côté de ma vue, ces jouets tout droit venus des conteneurs du port du Havre. Bienvenue dans l'authentique, bienvenue dans un lieu paradisiaque, bienvenue au Pouet de Sigillat, au cœur de la Drôme Provençale. Ici, pour le marché de Noël, les habitants ouvrent leurs maisons aux artisans locaux. On passe donc de maison en pierre en terrasse, de potier en bijoux avec une vue inégalable sur les champs de lavande. Tous les cadeaux sont fabriqués dans la région et la bonne humeur et de rigueur, comme avec Fred Ferronnier, organisateur de ce marché. Bonjour Fred.
Bonjour. Eh bien, bienvenue au Pouet de Sigillat pour le marché de Noël des terrasses des Ubacs. On a un hameau qui est orienté au sud. On imaginait investir toutes les terrasses au sud, faire un circuit, mais sur le principe de on va chez les gens et on passe avec un circuit. En général, on est deux ou trois sur le même lieu et c'est rigolo. Une rencontre d'artisans sympa, faire des cadeaux de Noël qui changent d'Amazon et compagnie, quoi. Donc les gens passent leur petit marché.
Super. Merci beaucoup Fred. Et cap maintenant sur d'autres maisons du Pouet de Sigillat où nous attendent d'autres artisans.
Alors le cadre il est magnifique hein, Raphaël, on l'a compris, les artisans sont locaux, mais nous ce qui nous intéresse quand même c'est de faire nos achats de Noël, c'est possible ça?
Et bien justement on va aller sur un de mes endroits préférés de ce marché de Noël, on va voir Mélanie Dupont, elle fabrique des origamis. Allez suivez-moi, on rentre dans sa petite maison. Et bonjour Mélanie.
Bonjour.
Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous faites, vous? Là, je voyais plein de petits papiers sur votre bureau.
Oui, parce que je m'arrête jamais de travailler, même pendant les marchés. Il faut toujours être en train de plier, c'est la passion, quoi. J'ai des guirlandes, j'ai des mobiles pour la décoration, j'ai des décorations pour Noël aussi, tout en papier, et j'ai beaucoup, beaucoup de boucles d'oreilles.
Qu'est-ce que vous avez comme motif, par exemple?
Des poissons, oui, des carrés, des tortues, des éventails, des papillons, des éléphants, des chats.
Et ça, c'est un mobile, hein. C'est au-dessus de nous, là, ce qu'on voit, oui. Hop, suspendu, ça bouge tout seul, finalement, avec l'air, c'est ça, en fait?
C'est ça, c'est tellement léger que ça bouge toujours tout seul.
Et au niveau des papiers, parce que je vois que là, je vois des BD, des choses comme ça, vous êtes très aussi dans le recyclage.
Il y a tellement de choses qui se jettent, qui remplissent nos poubelles. La priorité, c'est d'utiliser tous les papiers que les gens ne veulent plus. Donc moi, j'achète mes papiers d'occasion essentiellement. Sinon, je récupère. Donc voilà, des vieilles BD qui étaient bien abîmées, où les feuilles ne tenaient plus, où il manquait des pages. J'en fais des mobiles. Tous les papiers de publicité et tout ça, j'en fais des boîtes pour mes conditionnements.
Ça fait une deuxième vie, quoi, quelque part.
C'est ça.
Bonjour.
Bonjour.
C'est en quoi, du coup?
C'est en papier. Tout est en papier.
Je vais laisser Mélanie et sa cliente tranquille essayer des boucles d'oreilles en origami. J'ai repéré pour mes enfants de super jouets en bois dehors.
Bah vous avez bien raison d'en profiter. Allez, Raphaël, je vous laisse 30 secondes pour nous dire pourquoi est-ce que vous considérez que le marché du Pouet de Sigillat, c'est le meilleur marché de Noël de France?
Déjà parce que le meilleur est souvent celui qui ne s'autoproclame pas comme tel, n'est-ce pas, chers collègues de l'Est de la France? Le marché Noël du Pouet de Sigillat n'a donc pas l'intention d'être le meilleur, et pourtant il l'est, parce qu'il est humble, différent, fondé sur une idée simple et belle. Il y a près de chez vous des artisans incroyables, et nous les mettons en valeur. Nous vous permettons d'offrir à vos proches des cadeaux magnifiques, sans bilan carbone supportable. Et puis ce concept intime d'aller de maison en maison avec en plus le soleil et la vue sur la Provence, c'est tout simplement beau, généreux et ouvert sur le monde. C'est pas censé être ça, l'esprit de Noël?
Si, si, je vous confirme, c'est tout à fait l'esprit de Noël. Merci beaucoup Raphaël Vantard, et allez vite voter sur RTL.fr. C'est le dernier jour, en dernières heures, pour élire votre marché de Noël préféré. Le vote sera clos ce soir à 18h. Le nom du vainqueur lui sera annoncé demain matin sur RTL par Stéphane Carpentier. Ce sera aux alentours de 8h20.
RTL Midi.
Il y a une semaine, tout pile, la France vibrait à l'unisson derrière les hommes de Didier Deschamps avec l'espoir un peu fou de remporter une nouvelle fois la Coupe du Monde. La suite, vous la connaissez, pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. À la différence peut-être des Argentins qui, eux, semblent y prendre un malin plaisir. Julie Brault, ils ont lancé une pétition en ligne, déjà signée par un demi-million de personnes à travers le monde.
Eh oui, déjà plus de 667 000 signatures, exactement à l'heure où l'on parle, pour la pétition Friends Stop Crying. Comprenez que la France arrête de pleurer. Les Français n'acceptent pas que l'Argentine est le champion du monde, déclare Valentin Gomez, l'Argentin à l'origine de cette pétition. Une pétition qui répond à celle des Français, lancée il y a quelques jours. 215 000 signatures pour rejouer la finale du Mondial, car ils contestent l'arbitrage et notamment le pénalty attribué aux Argentins en première période.
Bon, alors les Argentins, ils nous charrient, ça d'accord, mais bon, ça commence à durer un petit peu cette histoire. En fait, ça n'arrête pas depuis la finale.
Et oui, souvenez-vous, le gardien argentin Emiliano Martinez, par exemple, a paradé dans les rues de Buenos Aires avec une poupée dans les mains, poupée sur laquelle était collé le visage de Mbappé. D'autres joueurs et supporters argentins ont entonné des moqueries, des insultes et des propos racistes envers les Bleus, des réactions peu élégantes selon la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Elle était sur RTL vendredi.
Je trouve ça pitoyable. Autant notre équipe de France a su perdre avec panache, autant la manière dont cette équipe argentine a agi à la suite de cette victoire, je trouve, est pas digne du match qu'on a vu.
Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, avait lui aussi réagi dans une lettre à la Fédération argentine. Il a notamment dénoncé les propos racistes à l'égard de Kylian Mbappé.
Une histoire qui semble encore loin d'être terminée. Merci beaucoup Julie Brault pour RTL. On va parler football, évidemment, mais on parlera aussi tennis, des Jeux Olympiques d'hiver et puis du rugby ce soir, évidemment, dans les trophées du sport sur RTL, avec notamment le champion RTL Sport 2022. C'est le meilleur rugbyman du monde. Il s'appelle Antoine Dupont. Rendez-vous ce soir entre 18h30 et 20h sur RTL. Dans un instant, il sera 13h. On fera un dernier rappel des informations avec Nathan Bocard, juste avant de retrouver Laurent Deutsch pour entrer dans l'histoire sur RTL. A tout de suite.
RTL Midi. RTL.